Et nous passons tout de suite au chapitre 5. Et je lis verset 1er. Or Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son seigneur, et considéré, car par lui l'Éternel avait délivré les Syriens, et cet homme était fort et vaillant, mais lépreux. Les Syriens étaient sortis par bandes et avaient amené captive du pays d'Israël une petite fille, et elle servait, la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le délivrerait de sa lèpre. » Et Naaman vint et rapporta à son Seigneur, disant, « La jeune fille qui est du pays d'Israël dit, et ainsi, et ainsi. » Mais le roi de Syrie dit, « Sois. » Va et j'enverrai une lettre au roi d'Israël, et il l'alla, et prit en sa main 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or, 10 vêtements de rechange, il apporta au roi d'Israël la lettre qui disait, « Maintenant, quand cette lettre te parviendra, voici, j'ai envoyé Naaman mon serviteur, afin que tu le délivres de sa lèpre. » Et il arriva que lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements, et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» que celui-ci envoie vers moi pour délivrer un homme de sa lèpre. Sachez donc et voyez qu'il cherche une occasion contre moi. Et il arriva que lorsqu'Élisée, homme de Dieu, eut entendu que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi tu déchirais tes vêtements ? Qu'il vienne, je te prie, vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et avec son char et se tint à l'entrée de la maison d'Élisée. Et Élisée envoya vers lui un messager disant, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et Naaman se mit en colère et s'en alla et dit, « Voici, je me disais, il sortira sans doute et se tiendra là, il invoquera le nom d'Éternel, son Dieu, il promènera sa main sur la place malade et délivrera le lépreux. Labana et le Parpar, rivière de Damas, ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Ne puis-je pas m'y laver et être pur? » Et il se tourna et s'en alla en colère. Et ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui parlèrent et dirent, « Mon père, si le prophète eût dit quelque grande chose, ne l'eusses-tu pas faite? Combien plus quand il t'a dit, « Lave-toi et tu seras pur. » Et il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Et il retourna vers l'homme de Dieu, lui et tout son camp, et il vint et se tint devant lui, et dit, « Voici, je sais qu'il n'y a point de Dieu en toute la terre, sinon en Israël. » Et maintenant, je te prie, prends un présent de ton serviteur. Mais Élisée dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, que je ne le prendrai pas. Et Naaman le pressa de le prendre, mais il refusa. Et Naaman dit, si cela ne se peut qu'on donne, je te prie, de cette terre à ton serviteur la charge de 2 mulets. Car ton serviteur n'offrira plus d'holocauste, ni de sacrifice à d'autres dieux, mais seulement à l'Éternel. Quand ceci, l'Éternel pardonne à ton serviteur, quand mon Seigneur entrera dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuiera sur ma main, et que je me prosternerai dans la maison de Rimmon, que l'Éternel, je te prie, pardonne à ton serviteur en ceci, quand je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Et il lui dit, et Élisée lui dit, « Va en paix. » Et il s'en alla avec lui un bout de chemin. Nous arrêtons là la lecture. Chers amis, nous sommes là devant une autre scène. Une scène très simple, extraordinaire. Dans le sens où nous allons voir là, et on pourrait voir là si on avait peut-être un peu plus de temps, l'exposé du mystère de la grâce. Tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a pensé, se trouve là, comme condensé dans ces tableaux. On a une succession de tableaux. On a une succession de personnages. Alors on va être très simple et on va tâcher d'être aussi simple que la parole. Mais il y a des trésors à découvrir. D'abord, Naaman, le chef de l'armée de Syrie. Un grand homme, il est considéré, il a une fortune, il est bien reconnu, il est honoré. Que demander de plus ? Aujourd'hui, un homme, voilà, un bel homme du monde. Extraordinaire, il a aujourd'hui, cet homme a tout pour lui, dirait-on. Il avait tout, mais il était lépreux. Et la parole dit, il est lépreux. Il ne s'agit pas d'une petite tâche. Que d'ailleurs, probablement, Naaman essayait de cacher. Mais il était lépreux. Deuxième personne, une petite fille, captive, prisonnière, transportée lorsque les Syriens étaient venus, ôtée à sa famille, arrachée aux siens, à l'affection des siens. Nous imaginons cette petite fille qui travaillait pour la femme de Naaman. Elle était serviteur, elle était là, petite, on ne connaît ni son nom, ni son âge. Une petite fille. Naaman avait un secret. Il était lépreux. Probablement, il le partageait avec sa femme, et la petite fille entendait. Mais ceci était caché dehors. La petite fille aussi avait un secret. Et ce secret, c'est qu'elle connaissait. Elle connaissait quelqu'un qui pouvait guérir. Troisième personnage, le roi d'Israël. Le roi de Syrie d'abord. Le seigneur de Naaman. Quand il dit Naaman, mon seigneur, c'est le roi de Syrie. Le roi de Syrie qui va écrire une lettre. Parce que son subordonné, Naaman, est venu le voir. On voit bien les choses qui se passent comme cela dans le monde aujourd'hui. L'actualité, un grand homme, on va chercher un soutien, on va chercher quelqu'un qui pourra nous faire une lettre d'introduction, on va pouvoir venir. Voilà, on a exactement ce qui se déroule aujourd'hui dans ce monde. Ensuite, le roi d'Israël qui reçoit la lettre. On écrit de roi à roi. Élisée n'est pas encore apparu. Ensuite Élisée. Élisée, homme de Dieu. Voilà les cinq personnages de cette parabole. On va dire ceci, c'est comme une parabole. Nous en avons étudié une lundi, en voilà une autre. Elle est aussi simple que celle de notre fils prodigue ou du père admirable. Et alors, quels sont les événements? Comment s'enchaînent-ils? D'abord, Naaman, qui est lépreux, avise son seigneur fait cette lettre, et cette lettre est envoyée avec force cadeau. Le roi d'Israël déchire ses vêtements, dit « Suis-je Dieu ?» Ce roi d'Israël, entre parenthèses, qui aurait dû connaître et qui a été averti, ne connaissait pas l'Éternel. Au chapitre 3, on le voit déjà dans son attitude déplorable, qui a été évoquée tout à l'heure. Seul Josaphat avait donné un témoignage correct. Mais en cet homme-là, voilà, suis-je Dieu? Et il déchire ses vêtements. Et puis il dit, mais sachez donc, vous voyez, il cherche une occasion contre moi. Nous voyons là encore exactement ce qui se passe dans le monde. Lorsqu'un événement arrive, lorsque une occasion semblable, eh bien, aussitôt on va chercher et on va penser quelque chose qui est contre, un piège qui m'est tendu. Et on le dit bien haut, bien fort. Voilà où se trouve notre petite fille. Dans cette famille, loin des siens, elle est là, dans ce monde. Et elle est seule. Et elle connaît le secret. Elle dit donc, eh bien voilà, Simon, Seigneur, savait. Simon, Seigneur, était devant le prophète qui était à Samarie, il le délivrait de la lèpre. Aucun doute pour cette petite fille. Il le délivrerait de la lèpre. Elle ne dit pas « il soulagerait ses souffrances, il effacerait la petite tache ». Non, il le guérirait de la lèpre. Sa foi est à la hauteur de ce que l'Éternel, de ce que Dieu attend. Voilà cette petite fille qui est là, dont la foi brille. On dirait aujourd'hui nous-mêmes, on dirait « mais comment a-t-elle pu ?» Cette petite fille qui était présentée comme quelqu'un qui était en quelque sorte le butin des Syriens, des bandes de Syriens. La parole ne parle pas du reste de ce que les Syriens avaient rapporté, sinon cette petite fille. Pour Dieu, c'est le plus beau, la plus belle partie du butin. La plus belle partie du butin rapporté, c'est cette petite fille. Et cette petite fille dis tout de suite, mon Seigneur, il y a quelqu'un qui peut te guérir. Qu'aurions-nous fait? On peut se poser la question, qu'aurions-nous fait quelqu'un qui n'aurait pas eu cette foi d'un enfant? N'oublions pas, nous allons y revenir, mais le Seigneur désire que nous nous approchions de lui comme des enfants. Un petit enfant, c'est encore toute la grâce. Si nous n'avions pas la foi de cet enfant, peut-être nous aurions raisonné. Mais alors, comment cela? Moi, je suis prisonnière. Et puis, si je dis à ce chef de l'armée, voilà, il faut que tu ailles là-bas voir Élisée. Et puis, peut-être que... on va le tuer. Que tous les raisonnements que cette petite fille pourrait faire, je ferais bien de me taire. Peut-être nous nous serions tués, chers amis. Nous n'aurions pas parlé. Nous n'aurions pas ouvert la bouche. Alors que cet enfant, avec cette foi simple, elle ouvre la bouche. Ceci me fait penser à une phrase que nous a rappelée un serviteur d'Afrique du Sud il y a quelque temps, qui disait que lorsque on se trouvait dans des situations difficiles, face à une opposition, face à des délicates, comment rendre témoignage? Comment annoncer l'Évangile? Nous pensons beaucoup à nos frères et sœurs que nous avons vus l'été dernier, qui sont en Irak. C'est difficile de proclamer l'Évangile, on ne va pas crier. Eh bien, ce serviteur, il nous a dit quelque chose. Lis, et je me souviens, il me l'a dit à moi-même, parce que je posais la question. Il m'a dit, mais tu lis Matthieu 10, verset 16. On se souvient. Le Seigneur envoie ses disciples, il leur dit, vous serez comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents comme des serpents et simples comme une colombe. Cette petite fille est là, simple comme une colombe. Voilà un petit vase. Voilà le plus beau petit vase, plein de parfums pour le Seigneur. Une petite fille qui rend ce témoignage clair, simple. Elle dit ce qu'elle savait, pas autre chose. Voilà un bel ambassadeur, voilà un beau témoin, une petite fille. Eh bien, cette petite fille, elle est face à un grand homme. Une petite fille et un grand homme. Qui veut, à l'instigation du roi de Syrie aussi, mais arriver avec des cadeaux, de l'argent, de l'or, des vêtements de rechange. Vêtements de rechange parce qu'en fait, on déchire ses vêtements. Lorsqu'on a ces nouvelles difficiles qui arrivent, on le voit dans l'exemple du roi, et des cadeaux. Et alors, on a cette fois-ci l'attitude de Naaman. Lorsqu'on tourne la page, et après l'invitation d'Élisée qui avait dit qu'il vienne vers moi, Naaman n'est pas allé vers lui, il est d'abord allé vers le roi de Syrie, et ensuite il est allé vers... et puis après, il a dit, il se met en colère lorsqu'il apprend ce que le messager de Élisée dit à Naaman. Parce qu'Élisée ne s'est pas déplacé. Il a envoyé son messager. Comment ça ? Moi, le grand homme, moi qui arrive avec mon char, aujourd'hui, un homme du monde arriverait avec tout ce qu'il pourrait avoir de mieux. Naaman est avec son char, et puis tous ses cadeaux. Et voilà que la solution que Dieu a donnée à Élisée, c'est ce que Dieu a dit à Élisée. Tu te laves 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, tu seras pur. Alors là, autre tableau. Cette fois-ci, c'est Naaman. Le grand homme. Alors que dit le grand homme ? Le grand homme, il dit, voici, je me disais. Voici, je me disais. C'est-à-dire que cet homme, il avait imaginé comment il pourrait être guéri. Eh bien, il va sortir, et puis Élisée lui-même, et puis il se tiendra là, il mettra sa main, il invoquera l'Éternel, et voilà, je serai guéri. Mais ça, c'est ce qu'il se disait. Alors la deuxième erreur de Naaman. Et il va falloir là, qu'il soit convaincu par ses serviteurs pour qu'il fasse la chose. Mais que nous dit cette erreur ? Que nous traduit-elle ? D'abord, que l'homme, face au message de la grâce, eh bien, il dit, c'est trop facile. C'est trop facile. Il dit, je veux payer. J'apporte tous ces cadeaux. Mais le message et l'œuvre du salut, elle est gratuite. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Et c'est facile. Oui, c'est facile. Mais, et puis la dernière chose, il pensait que ça serait fait de cette manière et à ce moment. En fait, Dieu a son moment et sa manière. Et là aussi, lorsque Dieu opère en grâce dans le cœur d'une âme, ce n'est pas toujours, et nous l'avons eu dans les témoignages que nous avons eu hier en particulier, ce n'est pas toujours selon ce que nous aurions imaginé. C'est selon ce qu'il pensait. Un verset auquel on peut se référer, on a parlé tout à l'heure de Seigneur avec la multiplication des pains, si nous lisons en Jean 6, nous voyons que le Seigneur dit, plutôt il est dit du Seigneur, il savait ce qu'il allait faire. Il y avait les deux petits garçons, le petit garçon avec les 5 pains et les 2 poissons. Mais le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Eh bien, nous, celui qui entend, nous devons recevoir cette parole et la parole du Seigneur avec cette... En acceptant sa souveraineté, il sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va le faire, il sait quand il va le faire. Voilà, donc Naaman qui doit comprendre que c'est trop facile, et c'est ainsi, que c'est gratuit. Et finalement, il accepte. Il va se plonger. Alors, le rappeler, il se plonge 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme. 7 fois, on voit qu'il faut se plonger avec foi, pas s'arrêter à la 6e. Comme quand le peuple a fait le tour de Jéricho, 7 fois, 7 jours. C'est une mesure de la foi, de la grandeur de la foi, de croire avec foi. Et le voilà qui sort, en effet, il est pur. Alors les eaux du Jourdain par rapport aux eaux de la Syrie, le Jourdain frontière entre Israël, la Syrie d'un côté, la mort d'autre côté, la vie. On voit toutes les images qui sont là et qui sont encore, qui peuvent nourrir aussi notre méditation, une fois les mythes. Et Naaman se trouve donc maintenant, il revient. Il revient. Et il revient pour remercier. Naaman, il est transformé. Nous avons vu et entendu sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon. Le grand homme a une chair qui devient comme celle d'un petit enfant. La petite fille lui a dit le remède. Et le grand homme devient comme un petit enfant. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Voilà l'œuvre de la grâce. Tout est exposé là, tout simplement. Une nouvelle création. Quelle est sa première parole ? Je sais. Je sais qu'il n'y a point de Dieu. Il a cru dans son cœur. Il fait confession maintenant à salut. Romains 10. Il a cru dans son cœur. Il confesse. Tout exactement ce que la parole nous enseigne. Et maintenant, il sait. Ce n'est que lorsque nous sommes sauvés, que nous avons et nous pouvons acquérir ces certitudes. Des certitudes de la foi, les certitudes et tout ce que nous avons. Et tout ce que le Seigneur nous donne avec le résultat de son œuvre. Nous savons, il sait. Alors bien sûr, il dit, il sait qu'il n'y a point de Dieu en toute la terre, sinon en Israël. Et alors il dit, mais je vais te donner un présent. Bien sûr, là, il ne s'agit pas de payer comme précédemment. Mais il remercie. Mais Élisée dit non. Il faut qu'il apprenne aussi. Et là, c'est Élisée qui l'enseigne. La grâce de Dieu est toute pure. Elle ne doit pas être ternie par quoi que ce soit. Abraham, en son temps, avait refusé un présent. Elle ne doit pas être ternie. Ceci va nous amener à dire quelque chose. Et puis encore, voilà, la fin est aussi très belle parce que Naaman dit, bon, eh bien, alors tu vas me donner ton serviteur. Mais voilà le grand homme. Il est maintenant le serviteur d'Élisée. Il est devenu le serviteur de l'homme de Dieu. Oh, donne-moi deux charges pour deux mulets de terre pour que je puisse faire un autel dans mon pays et que je puisse adorer l'Éternel. Il a compris, il est transformé, il a compris que maintenant il peut et l'adoration doit découler de son cœur. Il y a une reconnaissance qui vient et qui doit monter ainsi vers ce Dieu. Mais alors, il dit quelque chose, une phrase qui peut nous surprendre. Il dit, mais voilà, je veux te dire à Élisée, il est possible que ton serviteur, eh bien, il soit obligé d'entrer dans la maison de Rimmon, parce que mon seigneur, le roi de Syrie, quand il va dans la maison de Rimmon, il faut que je sois là, puis il met sa main sur moi pour avancer dans cette maison. Et alors, je veux te le dire, mais il faudrait que l'Éternel me pardonne, car quand je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Alors, chers amis, quelle est la transformation de ce grand homme? Et quelle est la réponse d'Élisée? Qu'aurions-nous dit? Oh, il y a des voix qui montent de temps en temps. On aurait dit, mais non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Élisée lui dit, va en paix. Et bien, chers amis, c'est une parole extraordinaire qu'il nous faut garder. On voit là la pensée qui était dans le Père admirable, dans un autre schéma. Mais le Père qui a attendu, le Père qui a désiré, le Père qui a embrassé, le Père qui a accueilli, le Père qui a parlé à son fils aîné, on ne connaît pas la suite. Là non plus, on ne connaît pas la suite. Mais il lui dit, va en paix. Élisée a compris, a discerné l'œuvre qui était faite, qui commençait dans ce grand homme. Et comme la parole nous le dit, l'œuvre qui est commencée, elle va être achevée. Le Seigneur poursuit son travail. Philippiens 2, il va achever cette œuvre dans nos cœurs. Mais la parole d'Élisée est admirable. Il n'y a pas de « il faut ». Non, tu ne dois pas. Va en paix. Mais il y a encore un trésor. Je ne sais pas comment il faut comprendre la dernière phrase. La dernière phrase de ce paragraphe, et il s'en alla avec lui un bout de chemin. Peut-être je vais dire quelque chose qui... Mais je vais prendre dans le sens le plus simple que je vois cette phrase. J'ai comme l'impression qu'Élisée a fait un bout de chemin. Il a fait un bout de chemin, puis il l'a laissé. Comme, voilà, il repartait, il lui dit « va en paix ». Et puis, il a peut-être pensé qu'il avait un bout de chemin à faire. Peut-être a-t-il parlé. Oh, il n'a pu lui parler que de la paix, que du résultat de l'œuvre, que de ce que Dieu avait fait et opéré. Mais cette pensée, si vous voulez, est admirable, de laisser le Seigneur poursuivre son œuvre dans nos cœurs, d'accompagner éventuellement que ceux qui sont là, qui peut-être ont été le canal par lequel celui qui est sauvé maintenant connaît ce salut, peut-être a besoin d'encouragement, d'aide, de l'accompagner un bout de chemin. Chers amis, c'est complètement différent que de dire à un amant, non, ne va pas dans la maison de Dieu. Les circonstances étaient ce qu'elles étaient. Le travail était commencé dans le cœur de l'amant, dans le cœur du grand homme. Il allait être poursuivi. Dieu allait achever ce travail. Nous avons là, chers amis, un tableau de la grâce, toute simple, de toutes ces étapes que nous pourrions, chacune de ces étapes en fait de cette parabole, nous pourrions y associer un parallèle avec une scène de l'Évangile, à chaque fois, ou un verset. On pourrait faire ce parallèle entre cette parabole du chapitre 5 de Rois et l'Évangile. Mais maintenant, il y a encore autre chose à dire, et on va quand même aller très vite, puisqu'on a peu de temps. Un mot de la deuxième scène que nous n'avons pas lue, c'est Géasi. Géasi, c'est le sixième personnage. Il apparaît à la fin, le serviteur d'Élisée. Mais le serviteur d'Élisée, que fait-il? Il ment, nous n'avons pas lu là, il ment à son maître, et il va jusqu'à rattraper l'homme de Naaman et lui demander un présent. « Oh, j'ai besoin de ceci. » Et Élisée le prend, le voit à son retour. Il ne lui parle pas du mensonge, le mensonge était évident à tous. Mais il lui dit, au milieu du verset 26, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements et des oliviers, des vignes? Est-ce le temps, est-ce le moment de prendre? Élisée avait refusé, Géasi le fait, et Élisée lui dit, eh bien la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta semence pour toujours. Et Géasi sortit de devant lui lépreux, blanc comme la neige. Voilà les trois miracles. Tout à l'heure, on en a vu un. On revient là-dessus pour bien clarifier les choses. Élisée a accompli plusieurs miracles au long de son ministère de grâce. Tous ces miracles étaient des miracles de grâce, à l'exception de trois. On a vu tout à l'heure les moqueurs, chapitre 3, le premier. le deuxième Géasi, et le troisième à la page suivante, lorsqu'il y a le siège de Samarie, il y a un homme, le capitaine du roi, qui se moque encore de la parole d'Élisée. Et Élisée lui dit, je vous lis simplement le verset, « Voici, tu verras peut-être la délivrance, puisqu'il s'agissait de la famine, suite au siège de Samarie, et Élisée a délivré, permettre la délivrance. Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu ne mangeras pas du pain, de la farine à bon marché. Et l'homme est mort, écrasé par la foule, le verset 17 du chapitre 7. Trois miracles d'Élisée, qui ne sont pas des miracles de grâce. Alors, je reviens un peu sur ce que a dit Jean tout à l'heure, pour le compléter. Ces trois personnes, ces trois miracles, sont des miracles de jugement, mais des miracles de jugement parce que la grâce a été méprisée. La grâce a été méprisée. Que ce soit les moqueurs, que ce soit Géasi. Géasi est venu à un moment où le tableau de l'œuvre était splendide. Et il est venu ternir, il est venu gâcher cette œuvre de grâce qui était faite. Il est venu alors que Naaman, il est, je dirais, tellement heureux d'être guéri, a été prompt à lui donner, insouciant de savoir. Non, il était toujours prêt à donner. Mais Géasi a terni l'œuvre de la grâce. Mes chers amis, il faut que nous nous souvenions d'une chose. Et nous allons lire pour cela le chapitre 10 des Hébreux, le verset 24 de Hébreux 10. « Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de deux témoins. D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a estimé profane le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce ?» Chers amis, c'est cela qui est solennel. Vous savez, le jour du jour, au jour du jugement, l'homme ne sera pas condamné parce qu'il est pécheur ou parce qu'il est seulement pécheur. Il sera condamné parce qu'il aura refusé. Il aura refusé la grâce. Autrement dit, ce sont trois miracles. Où l'esprit de grâce a été outragé. Et Dieu donne un avertissement déjà dans l'Ancien Testament. Tout ceci est parfaitement clair et se comprend à la lumière du Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament, il est clair, l'Ancien. Et c'est constamment cela que nous avons devant nos yeux. Mais maintenant, je pense qu'il convient de s'arrêter. Le temps étant limité, j'aurais voulu dire une seule chose. Et parce qu'il faut quand même insister là-dessus. Élisée était un homme de Dieu. On l'a prononcé. Là, nous avons vu dans ce que nous avons lu. Élisée, homme de Dieu. Et entre, il y a eu encore l'homme de Dieu. Élisée, le mot disparaît. Élisée, homme de Dieu, est cité 20 fois. Il n'y a pas d'homme de Dieu pour lesquels il est autant de fois répété l'homme de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce un prophète? Est-ce un vieillard? Non, ça peut être un vieillard, ça peut être un prophète. L'homme de Dieu, et je lirai simplement, ça nous servira de conclusion. C'est en lisant dans l'Épître à Timothée. Dans la première à Timothée, nous terminerons par là, au chapitre 6 de la première à Timothée, au verset 11. « Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. Et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. » Voilà, c'est Paul qui parle à Timothée. Timothée, un jeune homme. Timothée, un homme de Dieu. Et toi, homme de Dieu. Alors, chers amis, nous avons l'exemple de Timothée. Nous avons Élisée. Mais qui est l'homme de Dieu avec un grand H? Qui est l'homme de Dieu avec un grand H? Sinon le Seigneur lui-même. Lui était l'homme de Dieu. Donc lui le parfait modèle. Élisée n'est qu'un type de ce parfait modèle. Nous avons aujourd'hui le modèle, le parfait modèle. Et la parole est là pour nous encourager, à travers des exemples, comme celui d'Élisée, à être de tels hommes de Dieu. Alors, quelles sont les qualités des hommes de Dieu? Nous avons vu ce qu'ils doivent faire, fuir certaines choses, en poursuivre d'autres, la justice, l'amour, la foi, la piété. Un homme de Dieu, et alors lorsqu'on voit la vie d'Élisée, on peut se dire, tiens, mais quelles sont les qualités d'Élisée? Qu'est-ce que j'ai vu dans les qualités d'Élisée? Un homme qui a été disponible, qui a été partout, chez une riche femme, chez des pauvres, qui est allé à Damas, dont le roi de Syrie, qui était malade. C'était le chapitre 8. Un homme qui a été disponible à chaque instant. Un homme qui savait à qui il appartenait, à l'Éternel. Il connaissait l'Éternel et il savait qu'il lui appartenait. Un homme dont le ministère attache les âmes à son maître. Attacher les âmes à son maître, l'homme de Dieu. Attacher les âmes à Christ. Oh, que tout ce que nous pouvons dire, chers amis, que ceci n'est pas d'autre but que d'attacher les âmes à Christ. Élisée a pleuré. Comme son maître, comme son modèle, comme celui dont il était le type. Il a pleuré quand Azaël, il était obligé de moindre Azaël. Et il savait qu'Azaël allait commettre d'ailleurs un crime tout de suite, il allait assassiner le roi de Syrie. Et puis après, il savait qu'il allait détruire, être cruel sur les enfants d'Israël, tuer des femmes, égorger. Et alors, Élisée, et au moment où il oint, dans le chapitre 8, au moment où il voit Azaël, il le regarde, il ne dit rien, puis il est confus et il pleure. Comme notre Seigneur a pleuré devant l'immensité des dommages causés par le péché. Il était ému de compassion comme seul le Seigneur a pu l'être. Voilà quelques caractères, chers amis, de l'homme de Dieu. Pour que nous puissions être des hommes de Dieu, chacun à sa petite place, avec son petit service. Vous savez, un homme de Dieu, c'est aussi quelqu'un de discret. On connaît, il est même cité des hommes de Dieu dont on n'a pas cité le nom. Le nom n'apparaît pas dans la parole. Ils ne sont pas nommés. Un service discret, tranquille, que seul Dieu apprécie. Que Dieu connaît. Alors, chers amis, souvenons-nous aussi cela. Et méditons, et tout ce que nous avons pu, nous n'avons pas pu lire, que nous soyons encouragés aussi à le découvrir. Il y aura encore des trésors.